d'économie.
Le code des assurances de la RDC totalise aujourd'hui une année depuis sa promulgation par le chef de l'État. Sa mise en œuvre une année plus tard traîne. Elle est conditionnée à la création de l'autorité de régulation, cette autorité qui traîne à prendre corps. Les sociétés américaines sont prêtes à soumissionner pour obtenir des marchés dans le projet Inga 3. C'est le chargé de mission de l'ambassade américaine en RDC qui l'a dit au terme de son séjour à Matadi. La RDC, autrefois exportatrice de produits agricoles, est devenue à ce jour et à cause des guerres, une importatrice nette de ces produits. Maria Lang, la directrice de RDC pour l'organisation internationale Alerte, a regretté cette situation hier à Bukavu. C'était à l'issue de la conférence sous-régionale consacrée aux défis et opportunités pour le petit commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à ce magazine économique sur Radio Okapi. 17 mars 2015, 17 mars 2016, cela fait exactement une année aujourd'hui depuis que le chef de l'État avait promulgué le code des assurances en RDC. Les dispositions de ce code prévoient son entrée en vigueur une année après sa promulgation. La question aujourd'hui, où en est-on avec la mise en œuvre du dit code? Où en est-on avec la mise sur pied de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances? Et comment va se passer la cohabitation entre la SONAS et les autres assureurs qui seront intéressés d'investir en RDC? Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre dans cette réflexion de Nadine Folantimba.
À ce jour, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC ARCA n'est pas encore mise en place. Il était prévu dans cette loi qu'une année de moratoire soit accordée à la SONAS pour se préparer et surtout au ministère des Finances, autorité des tutelles, de mettre en place une autorité de régulation. Mais la nomination d'un conseil d'administration de l'ARCA tarde encore. Et au cours de l'atelier organisé la semaine dernière pour les préparatifs, les participants avaient émis le vœu d'avoir un régulateur fort avec des capacités techniques fortes, conformément aux standards internationaux. Les défis qui attendent cette autorité de régulation sont plus d'ordre de gestion. En effet, c'est cette autorité de régulation qui doit gérer les demandes des opérateurs des assurances et leur délivrer la licence avant d'opérer, une fois les dossiers déclarés conformes. Selon les cabinets d'audit Ernst & Young, la RDC va constituer un Eldorado pour le secteur des assurances et les dernières études estiment à 500 millions de dollars américains les recettes qui pourraient être récoltées pour la première année seulement, une fois ce secteur est libéralisé. Mais des sources proches du ministère des Finances qui supervise ces opérations, on signale que nous sommes encore dans la phase de la mise en œuvre du cadre juridique. Une équipe des experts réfléchit et prépare le cadre juridique qui va régir ces secteurs. En ce qui concerne la cohabitation des autres assureurs avec la SONAS, cette dernière aura le choix, soit de se transformer dans la spécialisation des assurances de dommages et abandonner les assurances vie et capitalisation ou vice-versa. Rappelons que la loi portant code des assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser certaines activités des secteurs économiques et financiers du pays. L'assurance constitue une des activités essentielles au développement économique et social des pays modernes. Il est donc nécessaire de mettre sur pied une législation uniforme, moderne et complète, sous forme d'un code des assurances prenant en compte tous les engagements internationaux en matière d'assurance ainsi que les particularités du pays. En libéralisant le marché des assurances, on met ainsi fin au monopole accordé à la Société nationale d'assurance. L'État doit donc assumer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés.
Et nous rejoignons Amatadi Guiroje Nyampala qui a suivi pour nous le séjour du chargé des missions de l'ambassade américaine en RDC, lui qui a séjourné dans la ville portuaire et ce qu'on peut retenir de son voyage, les entreprises, les sociétés américaines sont prêtes à soumissionner pour obtenir de marchés dans le projet Inga 3, c'est ce que nous dit Guiroje Nyampala.
Au sujet du barrage hydroélectrique d'Inga, le diplomate américain espère que le gouvernement congolais va finaliser dans un bref délai ce projet car les entreprises américaines sont prêtes, selon David Brown.
Nous espérons que dans un très proche avenir, le gouvernement pourra arriver à un accord de financement d'Inga 3. Il y aura des sociétés américaines qui vont concurrencier. J'espère qu'ils vont faire le meilleur offre et être sélectionnés par le gouvernement congolais.
Il sera question dans ce projet de construire de nouvelles turbines et autres infrastructures de grande envergure pour augmenter la puissance en termes de mégawatts pour Inga 3. À l'heure actuelle, on est dans la phase de préfaisabilité selon un responsable de la SNEL. Outre Inga 3, le chargé des missions de l'ambassade des États-Unis en RDC a également parlé d'autres projets d'investissement au Congo central.
Vu l'importance de cette province pour le pays entier, son impact sur l'économie nationale, investissement dans des routes, investissement dans des carrières et dans le secteur minier ici, des projets entrepris déjà avec l'appui de monsieur le gouverneur.
Notez que David Brown a visité la minoterie de Matadi, branche de la société américaine Sinbold, basée à Matadi. Depuis la ville portuaire de Matadi, Guy Roger Nyampala, Écho d'économie.
Rendons-nous à Lubumbashi, où nous apprenons que l'administrateur du territoire de Kabongo, c'est à près de 900 km de Lubumbashi, qui a annoncé aujourd'hui la fermeture de la campagne culturelle pour la saison culturelle 2015-2016 sur toute l'étendue de son territoire. Cette fermeture durera 3 mois. Il a fait cette annonce au cours d'un rassemblement populaire à Kimega. De ce fait, aucun opérateur économique n'est autorisé d'acheter ou de vendre de produits agricoles, notamment le maïs, les haricots, les arachides ainsi que le soja. L'objectif visé est de permettre aux agriculteurs de sécher leurs produits agricoles, leurs produits des champs, et ceux qui ne respecteront pas cette mesure seront obligés de payer une amende allant de 100 à 200 000 francs congolais, a martelé l'administrateur du territoire de Kabongo. Terminons par Bukavu. Bukavu qui a abrité une conférence régionale sur le petit commerce transfrontalier. Les travaux avaient commencé hier mercredi pour se clôturer aujourd'hui jeudi à l'hôtel Panorama de Bukavu sous les auspices de l'organisation internationale Alerte. Cela en collaboration avec la Banque mondiale. C'était autour du thème « Les accords sous-régionaux, défis et opportunités pour le petit commerce transfrontalier » pour la région des Grands Lacs. Une centaine de hautes personnalités nationales et internationales venues de 3 pays y ont pris part avec des experts des organisations sous-régionales de la CPGL et du COMESA. Je vous propose d'écouter Madame Maria Lang, directrice nationale RDC de l'organisation internationale Alerte. Elle parle de la RDC dans cette conférence sur les commerces transfrontaliers au micro de Michel Chirimwami.
Nous avons jugé bon, avec la Banque mondiale, organiser cette conférence pour en fait examiner la possibilité de développement de ce commerce transfrontalier pour justement la prospérité et la paix dans la région. Alors le thème de cette conférence porte sur les cadres légaux sous-régionaux. Alors, les objectifs de la conférence, c'est de faire le bilan de ces cadres légaux sous-régionaux qui portent sur le petit commerce transfrontalier, ou sur le commerce transfrontalier plutôt, de partager des expériences, des leçons et des solutions possibles entre les participants qui proviennent des gouvernements du Rwanda, du Burundi, du Luganda, de la RDC, et aussi des organisations de la société civile et des organisations partenaires par rapport à tous les défis et les possibles solutions à ce commerce transfrontalier. En fait, le troisième objectif clé, c'est d'encourager l'ensemble de ces participants à pouvoir s'engager d'une manière concrète afin de prendre des mesures concrètes pour promouvoir ce commerce transfrontalier.
Quand vous parlez déjà des défis, tout en parlant aussi des avancées, je ne sais pas comment vous allez pouvoir concilier les deux, alors que votre objectif, c'est de promouvoir ce commerce.
En dehors de cette conférence aussi, nous travaillons en fait avec des femmes petites commerçantes au Rwanda, au Burundi et en RDC, aux frontières de Uvira, Bukavu et Goma, pour les aider, un, à savoir mieux gérer leur entreprise, à savoir lire et écrire, à discuter sur aussi la question de répartition des revenus à la maison, parce que notre projet porte sur la capacitation économique des femmes, donc il faut aussi toucher sur les relations en famille, entre hommes et femmes, etc. Et donc aider à avancer leur commerce. On le met aussi en lien avec des institutions de microfinance qui, eux, peuvent fournir des appuis particuliers à ces femmes-là.
Il semble que du côté de ce que nous connaissons côté RDC, le premier défi, ce sont la multiplicité des taxes. Est-ce que vous essayez de faire le plaidoyer dans ce sens ?
Oui, en fait, depuis le début qu'on a travaillé sur cette question, depuis 2009, on a fait beaucoup de plaidoyers sur ça. Il existe un ordre présidentiel qui était signé en mars 2002, qui limite et qui stipule clairement les quatre services qui sont autorisés d'être présents à la frontière, appuyés par la police de frontière. Néanmoins, nous constatons que 14 ans plus tard, ce décret n'est pas entièrement mis en œuvre.
Quels sont les produits en fait qui traversent la frontière vers la RDC ou qui sortent de la RDC vers l'extérieur à travers ces femmes de petits commerces?
Donc en fait, le Congo dans le temps était un pays exportateur net des produits agricoles. Toutes les régions ici, le Nord et le Sud Kivu, exportaient beaucoup de produits agricoles dans le pays voisin. Cette situation-là a complètement changé avec les guerres et l'affaiblissement des institutions nationales, etc. De sorte qu'aujourd'hui, le Congo est un importateur net de ces mêmes produits agricoles. Cependant, oui, il y a des produits agricoles que le Congo exporte. Il y a notamment l'huile de palme, il y a pommes de terre, il y a des haricots. Ça dépend des régions, en fait. Il y a aussi certains produits qui, selon la saison agricole, sont soit importés ici des pays voisins, soit exportés vers les autres pays voisins. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo a beaucoup perdu, si vous voulez, sa part dans le marché. Et cela est largement dû à la guerre et aussi à la destruction de l'infrastructure. Donc manque de routes au niveau à l'intérieur du Congo, qui fait que c'est très difficile d'amener ces produits vers les marchés extérieurs. Il y a aussi un problème de réglementation, donc la taxe à l'exportation au Congo est très élevée comparativement au pays. Donc il y a aussi un problème d'harmonisation des règles douanières, etc. Et c'est là aussi où les accords sous-régionaux sont très importants pour pallier ce problème-là.
Merci beaucoup, madame.
Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Écho d'économie. Retrouvez cette émission demain, même heure, sur la même chaîne. Au revoir.